Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Je me brossais les dents hier matin et je regardais la télévision en faisant toutes sortes d'autres choses, en me préparant notamment pour vous jaser. Et j'attrape sur, je crois, le canal Savoir, une entrevue fascinante, une conférence en fait, entre un historien, Éric Bédard, et le rappeur et auteur Biz, Sébastien Fréchette, sur Cadillac et...
En fait, c'est sur Pierre-Lemoyne d'Iberville.
Voilà, Sébastien est avec moi. Merci d'être là, Biz.
Ça me fait plaisir. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde.
Et je me suis dit, mon Dieu, il faut absolument qu'il vienne nous en parler, nous raconter ça. En fait, je voudrais que tu répètes ce que tu as dit à la TV. Mais non.
Ben là, il faudra avoir beaucoup de temps.
Oui, il faudra avoir beaucoup de temps. C'est vrai que c'est le fun. Souvent, j'écoute ces conférences d'Éric Bédard, l'historien, parce que moi, je suis fascinée par l'histoire du Québec, l'histoire en général. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Oui, tout à fait.
Et quand j'entends quelqu'un comme toi qui a cette capacité d'abord, qui connaît l'histoire, qui est capable de l'analyser puis de nous la redonner de façon simple, j'ai envie que tu racontes ça au monde.
Mais écoute, ces conférences-là avec Éric Bédard sont fascinantes parce que là, cette année, c'est les grands personnages de la Nouvelle-France. Ouais. Puis tu sais, la Nouvelle-France, pour nous, bon, en tout cas, moi, je me souviens, dans mon cours d'histoire, c'était le prix des minots de blé, puis les fourrures, puis si, alors, il y avait la ligne du temps, puis des dates. Il y a comme quelque chose de désincarné. Alors que cette grande histoire-là, quand on la rattache à la petite histoire de ceux qui l'ont fait, là, ça devient fascinant parce que c'est des histoires abracadabrantes. Les personnages de la Nouvelle-France, qu'on pense à Pierre-Lemoyne d'Iberville qui est un corsaire absolument hors norme, qui a jamais perdu un seul combat en 20 ans.
Toi, c'est ton héros pour toi.
Moi, c'est mon héros préféré de toute l'histoire du Québec. Puis parce que c'est un gagnant, il a jamais perdu et c'est un stratège militaire extraordinaire et c'est un visionnaire géopolitique aussi. C'est lui qui a découvert la Louisiane, qui a fondé la Louisiane, le premier gouverneur de la Louisiane. Il est mort à Cuba, à la Havane, probablement empoisonné par des espions anglais qui n'étaient pas capables de s'en débarrasser en combat. Puis on dit la seule façon qu'on peut l'éliminer, c'est de l'empoisonner. Où il était en train de fomenter une alliance avec un corsaire espagnol pour bombarder New York et Boston. Et lui, il voulait bouter les Anglais hors de l'Amérique. Il voulait faire de l'Amérique une Amérique française. Et s'il avait réussi, peut-être que les États-Unis parleraient français aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Il y a une statue de lui à la Havane. Les Cubains l'appellent El General Don Pedro Berbila et ils le connaissent parce que lui, il libérait les Anglais des Antilles. En fait, il était en guerre contre les Anglais. Et ses os sont à la cathédrale San Cristobal à la Havane. Mais qui connaît ça? Qui sait ça? Et donc, quand on est dans cette dynamique-là...
Comment t'as su ça, toi?
Mais moi, j'ai lu la biographie de Guy Frégo. Si vous êtes intéressé par d'Iberville, la seule chose que vous avez à lire, c'est Guy Frégo, d'Iberville le conquérant. C'est un livre qui fait le tour de la question, vraiment. Mais essentiellement, à partir du moment où t'es en sixième année ou en première année du primaire, puis tu sais lire, t'es capable d'avoir accès à ton histoire, tu vas lire. Maintenant, sur Internet, on a accès à tout. Puis mais c'est pas dans mes cours d'histoire. Même si en histoire de secondaire 4, j'avais eu à l'examen national 99%. J'étais à l'école Perrault à Québec, qui est une école publique, ma prof d'histoire pavoisait, le directeur on était deux dans tout le Québec à avoir eu cette note-là. Et tout le monde était content qu'il y ait un petit cul de l'école Perrault, qui était une école de bombe à Québec, qui s'intéressait à l'histoire puis qui était bon en histoire. Puis ça m'a, je sais pas, toujours intéressé. Les histoires, tu sais, j'en écris, j'en raconte maintenant des histoires, ça m'intéresse. Puis mon histoire, notre histoire, ça m'intéresse aussi.
Oui, alors donc, il y a d'Iberville. Puis je parlais de Cadillac parce que dans le fond, en octobre, il y a deux ans, en fait, presque il y a deux ans, en octobre 2017, t'es allé à Bar Harbor au Michigan.
Ann Arbor, excuse-moi. Qui est près de Détroit.
Ann Arbor au Michigan, près de Détroit, avec des amis, en tailgate, parce que t'es allé voir un...
match de football.
Voilà. Et puis là-bas, t'as comme découvert, je pense, en venant de Détroit, c'est ça? Puis
exactement.
Puis tu t'es dit, mon Dieu, c'est quoi cette ville-là qui est en déperdition?
Mais écoute, cette ville-là, justement, deux choses m'ont fracassé à Détroit. Premièrement, la dévastation physique de cette ville-là. C'est une ville, on dirait que ça a été bombardé. Mmh. Et ça a été une des plus belles villes d'Amérique. Détroit, dans les années 20, dans les années 10, dans les années 30, c'était la Paris du Midwest. Il y avait un plan d'urbanisme extraordinaire, des édifices art déco qui maintenant sont en ruine totale et dont on a fait des stationnements à étages pour les automobiles.
À ce point-là, moi j'habitais à Windsor, en Ontario.
C'est ça. Alors,
Et donc, tu vas à Détroit. À l'époque, là, il y avait du drive-by shooting. C'est-à-dire que c'était hyper dangereux.
Puis c'est encore la ville la plus dangereuse aux États-Unis.
Tu sais, tu pouvais être à un feu de circulation, puis tu avais peur, là, tu te barrais tes portes. Moi, j'ai connu des gens là, qui travaillaient là-bas, des francophones, puis qui se sont fait poignarder là, à une lumière. Là. C'était une ville, là, tu voulais pas être là trop longtemps.
Non, et c'est une ville qui a donc subi la chute du marché automobile, qui a été délocalisée et tout ça, qui avait tout misé sur l'automobile et dont il ne reste que des ruines à l'infini. Fini. Alors, des fois, on se promène à Montréal ou dans une ville et on voit une maison placardée. Là, c'est des plywood à la grandeur. Il faut imaginer l'île de Laval au complet placardée. Alors, ça m'a fasciné, cet état de dévastation-là. Et aussi, la mémoire francophone. Parce que tu arrives à Détroit, tu croises les rues Frontenac, Lafayette, Montcalm, Beaubien. Tu arrives au centre-ville de Détroit, près du Renaissance Center, là, le grand édifice de GM. Il y a une grande plaque de métal où c'est marqué en français « Hommage aux Canadiens français qui, par leur courage, ont fondé la ville de Détroit en 1701. » Ce qu'on appelle le convoi de Cadillac. Et là, tu as la centaine de noms. Ils sont tous des Bernier, des Mercier, des Laframboise. Ce sont tous des noms francophones. Parce que Détroit, quand tu reprends l'histoire de la Nouvelle-France, le premier établissement, c'est Québec, sur le long du fleuve. Hein. Québec en 1608, Trois-Rivières en 1634. Donc, on avance, on part de l'Europe et on avance dans le fleuve vers l'ouest. Après ça, Montréal en 1642. Et après ça, c'est Détroit en 1701. Donc, on avance dans les Grands Lacs. Tout ça pour fonder une colonie, pour intercepter le commerce des fourrures qui s'en allait au sud, vers New York, vers les Hollandais, vers les Anglais. Alors là, le gouverneur Frontenac a dit, il faut établir un poste, pas seulement un poste de traite, mais vraiment une colonie avec des agriculteurs, un établissement permanent pour que les Amérindiens qui sont dans les Grands Lacs, qui prennent les fourrures, nous les donnent à nous. Et nous, après ça, on les envoie à Québec et en France après ça. Donc, la Nouvelle-France, quand tu regardes, tu peux pas comprendre l'Amérique, puis le Québec, puis la Nouvelle-France. Tu n'as pas une carte hydrographique. Le cœur de l'Amérique, c'est littéralement les Grands Lacs qui sont le cœur qui envoie dans les veines, dans les rivières et dans les fleuves, toutes les voies navigables de circulation. Donc, on a est-ouest par le Saint-Laurent, on arrive au Grand Lac. Après ça, tu peux partir nord-ouest vers le lac Winnipeg, fleuve Mackenzie, tu t'en vas au territoire du nord-ouest. Par le lac supérieur, tu peux descendre au Mississippi, jusqu'au golfe du Mexique. Et en chemin faisant, t'arrêtes au Missouri, le fleuve Missouri, qui t'amène dans les Rocheuses. Donc, t'as un axe, t'as un cadran où tu parcours l'Amérique au complet. Et tout ça existait bien avant que les Européens arrivent. Mais les Grands Lacs étaient le cœur de la vie de l'Amérique. Et les Français ont été autour de ça pendant très longtemps. Je suis retourné d'ailleurs dans les Grands Lacs américains, au Minnesota, au Dakota, en Illinois aussi cet hiver.
Est-ce qu'on sent encore le...
Mais il y a une trace, évidemment, il y a une trace, je dirais, topographique. C'est-à-dire que t'es au Wisconsin, t'as La Crosse, Eau Claire, t'as encore ces noms-là qui datent, ceux qui n'ont pas été anglicisés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été anglicisés. Mais j'ai découvert qu'il y a énormément de gens, de plus en plus aux États-Unis, qui se disent French Canadian, OK?
Mais qui parlent pas le français.
Non, ils ne parlent pas français et ils ne sont pas citoyens canadiens. Ouais. Donc, c'est quand même aberrant que, dans leur dénomination French Canadian, ils ont ni l'un ni l'autre, ni la citoyenneté, ni la langue.
Mais est-ce qu'ils ont le droit, là? C'est-tu de la récupération culturelle?
Alors
ça?
Voilà, c'est une excellente question et c'est la question que je pose dans mon roman Cadillac parce que c'est la question finale. Est-ce qu'on peut être francophone sans parler français? Et moi, ce que je découvre en parlant avec ces gens-là qui habitent à Saint-Paul, Minnesota, qui habitent à Chicago, qui sont jeunes aussi pour la plupart, c'est pas juste des vieux, qui envoient leurs enfants en immersion dans les universités en français. Ils s'appellent Mercier, ils s'appellent Bernier. Donc, ils sont de culture canadienne-française. C'est-à-dire qu'ils fêtent Noël comme nous, ils vont à l'église catholique, leurs églises sont pareilles comme nous, ils bouffent de la tourtière, puis pas du meat pie, la vraie tourtière avec du gibier, comme nous.
Ouais.
Ils jouent au Minnesota, ils jouent au hockey, parce que c'est un état où il fait... Pis d'ailleurs, au Minnesota, moi, je leur tirais la pipe, parce que sur leur plaque, c'est marqué 10,000 lakes. Ils sont contents d'en avoir 10 000. Moi, je dis, en passant, nous autres, on a 1 million au Québec, mais c'est une autre affaire. Et la devise du Minnesota, c'est l'étoile du Nord. C'est le seul État américain dont la devise est en français. La devise de la ville de Minneapolis, c'est en avant. Alors, quand tu vas là, puis tu vois ça, t'arrives là, puis tu dis, OK, il s'est passé quelque chose, on a été là, et tu te sens chez toi. On est avec eux autres, on parle en anglais, évidemment, mais on a l'impression qu'on est avec des cousins dans une grande tablée familiale que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est absolument fascinant comme expérience.
Pour ceux qui ont voté démocrate, j'imagine.
Ben, c'est-à-dire qu'au Minnesota, ça ressemble beaucoup au Québec. C'est un État nordique, très plein air et très progressiste, très démocrate aussi. Un des seuls du Midwest qui est démocrate. Peut-être avec l'Illinois un peu.
Fascinant. Et donc, t'as eu envie de parler de ça, de raconter finalement un peu ces liens-là.
Oui, tout à fait.
Parle-nous un peu de Cadillac.
Ben, Cadillac, écoute, son histoire, encore une fois, est tout aussi
abracadabrante. On ne connaît pas, lui, non plus.
Personne ne connaît ça. Non. Cadillac s'appelle d'abord Antoine Lomet et il est poursuivi par la justice de la française. Alors, c'est un soldat, c'est un militaire et on ne sait pas trop si c'est au criminel ou au fiscal. En tout cas, bref, il y a des emmerdes avec la justice et il fait comme Clotaire Rapaille et Giovanni Apollo, il se réinvente en Nouvelle-France. Alors, il arrive en Nouvelle-Écosse et il dit, moi, a beau mentir qu'il vient de loin, je vais reconstruire mon CV, je vais me manoblir et me décréter baron. Donc, comme il venait de la Gascogne, donc en Gascogne, tous les territoires sont en hack, hein, Bergerac, Cadillac et tout ça. Donc, lui dit, moi, je suis le baron de Cadillac et je m'appelle dorénavant Antoine Lamotte, baron de Cadillac. Il a même dessiné lui-même ses propres armoiries, alors ce qui est une fraude complète. Mais puisque personne ne peut vérifier parce qu'on n'a pas Internet, il se ramasse à Québec, à Montréal, dans le commerce de fourrures. C'est un très bon négociant et c'est un fourreur dans tous les sens du terme parce que il est un peu ratoureux et il s'en met plein les poches. Ouais. Et Frontenac finit par lui confier justement la fondation de la colonie du Détroit. Donc, il va explorer et il met ça, si t'es allé à Windsor, à la rivière Détroit, là, on peut presque traverser à la nage.
C'est très étroit, donc
tu peux surveiller tout le passage des Grands Lacs, là, des lacs supérieurs, Michigan jusqu'au lac Érié, Ontario. Tu peux surveiller ça, c'est à portée de canon. Alors, il dit, on va faire des terres, on va défricher, on va implanter des alliés amérindiens avec nous, il amène des prêtres, des cultivateurs et tout ça. Et là, la colonie prend forme, sauf que c'est un mauvais gestionnaire. Il vend de la robine aux Amérindiens, il vend des fourrures aux Anglais, il se fâche avec les curés, puis il surtaxe ses colons. Tout le monde est en crise contre lui. Il y a un procès, il se fait rapatrier à Québec. Il fait de la prison à Québec. Et pour le punir, on fait comme on a fait avec certains diplomates, certains politiciens qui ont été empêtrés dans le scandale des corruptions qui ont été envoyés comme ambassadeurs au Danemark. On le nomme gouverneur de la Louisiane, qui vient d'être fondée et découverte par Pierre Lemoyne d'Iberville en 1704-1706 à peu près. Et donc, après ça, il fait quelques années là et il retourne mourir dans son lit en Gascogne, sa Gascogne natale, après un périple incroyable au Nouveau Monde. Et 200 ans plus tard, pour le bicentenaire de la ville de Détroit, Ford veut faire une automobile pour commémorer la ville de Détroit. Il nomme donc cette auto-là Cadillac. Et le blason, l'écusson de l'automobile, c'est le blason faux qu'a dessiné Antoine Lamotte.
C'est drôle.
C'est fascinant.
Hein? Écoute, j'ignorais tout de ça. Je suis sûre que les auditeurs aussi. Moi, je vote pour que Biz soit nommé chargé de notre programme d'histoire
au
gouvernement. On aurait tellement de fun. Mais tu sais, quand tu la racontes comme ça, l'histoire du Québec, là, tu viens de... Je suis sûre que tu captes l'attention de tout le monde là, qui nous écoute en ce moment. Puis c'est ça qu'on veut.
Tant mieux. Puis je l'espère bien, mais c'est... Comme je te dis, c'est l'histoire avec un grand H, ce sont des histoires de personnes qui. Puis là, tu sais, je t'ai pas parlé des Lavérandry qui ont découvert les Rocheuses. Je t'ai pas parlé de Marianne Gadoury qui est la grand-mère de Louis Riel.
La discussion est jeune. On va à la pause.
Parfait. On revient.
Si vous avez des questions, on a Biz avec nous. C'est un livre d'histoire. C'est ça. Moi, cette façon qu'il a de nous transmettre ça, j'en veux des heures. Alors, vous pouvez nous appeler 514-790-9850 et vous faites sans frais partout au Québec. 1-866-790. 9850. À tout de suite. Loco, le casque, quand est-ce votre prochain album?
C'est une très bonne question. Je ne saurais te répondre. Tu vois, le clan qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait de plus récent en création. Ça date quand même de 2016. Je te dirais qu'en ce moment, il n'y a pas de création
pas de
chansons en chantier. Essentiellement parce que moi, je suis dans les romans. Tu sais, tu vois comme...
Ouais.
Cadillac, j'aurais pu faire une chanson avec ça, puis j'ai fait un roman, puis c'est pour moi, pour l'instant, c'est comme ça que ça sort en ce moment-là.
Puis tu fais même t'as un livre pour enfants aussi.
Oui, c'est Flavie que j'ai fait, que ma fille a illustré aussi.
Ouais.
Alors c'est ça, moi je suis vraiment dans la littérature. Puis j'ai une chronique de sport et société avec Jean-Charles à TVA Sport.
Ouais.
Et plus on est fou, plus on lit aussi, mon club de lecture à Radio-Can, fait que C'est ça que je fais en ce moment. J'ai un roman policier sur la Côte-Nord qui sort à l'automne.
Un roman policier?
Oui, je viens de finir, là, j'ai déposé hier à mon éditeur.
C'est quoi le titre?
Les Abysses.
Les abysses.
Oui, la couverture est malade. Je suis vraiment content. Puis, c'est ce roman policier. C'est la première fois. Écoute, j'ai eu des consultants judiciaires, consultants carcérales. Il y a un bout qui se passe à Port-Cartier.
Sur fond historique? Ou
Non, non, sur fond contemporain. Tout? C'est une histoire père-fille. Ah. Mais c'est ça, avec un truc carcéral à Port-Cartier.
Mmh. Écoute, on va s'en reparler donc à l'automne. Guy est avec nous. Bonjour Guy, vous entendez la façon dont Sébastien Fréchette, Biz, nous parle d'histoire, ça vous parle?
Ah, c'est un conteur extraordinaire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
C'est un conteur extraordinaire. Écoutez, si on laisse les livres d'histoire, là, pour connaître bien nos personnages, comme Lamothe Cadillac, puis tous ces grands personnages-là, il existe un ouvrage gratis en ligne, disponible dans à peu près toutes les grandes bibliothèques universitaires, mais c'est le Dictionnaire biographique du Canada, que Biz connaît peut-être.
Oui, oui, tout à fait, c'est très bien fait.
Ah, c'est une œuvre magistrale, projet commun, Université de Toronto et Université Laval. Ça fait une quarantaine d'années. Ils doivent être rendus à 14 bouquins, c'est 1000 pages chaque, là. Bon, Jeanne Mance, c'est qui? Jacques Cartier, c'est qui? Marguerite Bourgeois, Lamothe Cadillac, c'est toutes des biographies faites par des grosses pointures en histoire, là, tu sais, c'est fondé, documenté et tout. Vous en avez pour votre vie à lire des biographies incroyables. Incroyable.
Wow, tellement, tellement.
Alors, Dictionnaire biographique
du Canada. Ben, oui, merci pour ligne, cette suggestion.
DBC, là, vous écrivez un nom, et puis c'est
DBC.
Non, c'est incroyable. C'est
merci beaucoup. Riche. Merci, Guy. René, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Ben, moi, je voudrais parler un peu de Pierre Dugas-Demont.
Oui.
Qui a été le vrai administrateur, le vrai fondateur de la Nouvelle-France. On n'a pas entendu parler beaucoup parce que c'était un protestant et nos prêtres chanoines écrivains, ben, quand c'était protestant, il n'en parlait pas trop. Mais lui, c'est lui qui a investi l'argent. Et la première année qu'il est venu, c'était dans la rivière Saint-Jean sur l'île Sainte-Croix. Et ils ont frappé un hiver épouvantable.
Oui. Alors, ils sont presque tous morts.
Oui, presque. Puis Pierre Dugas-Demont est retourné, puis il a dit à Champlain, là, regarde, vas-y, là, moi, je vois plus là.
Ah, ouais, tu connais Biz?
Oui, tout à fait. C'est effectivement la colline. Et ce que monsieur dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ceux qui ont raconté l'histoire, pourquoi on connaît pas Cadillac? Pourquoi on connaît pas d'Iberville? Pourquoi on connaît pas la Vérendrye? Essentiellement parce que c'était des analphabètes d'une part qui ont rien laissé, mais surtout parce que, pas pour la Vérendrye, mais dans d'Iberville, Cadillac, puis Delors des Ormeaux, ils étaient considérés comme des bandits et des gens moralement inacceptables par ceux qui racontaient l'histoire, c'est-à-dire le clergé catholique. Et ça incluait les protestants là-dedans. Donc, ça est passé entre les mailles de l'histoire officielle, si on
veut. C'est de la récupération politique, finalement, ou de la manipulation historique.
Ceux qui écrivent l'histoire l'écrivent à leur avantage,
exactement.
Forcément.
C'est ça. On a Gilbert avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, je suis de votre avis aussi concernant les entrevues de Bédard. C'est tout à fait exceptionnel.
Ouais.
J'en manque pas une. Mais là, cette semaine, là, j'ai écouté, là, je pense qu'il était 2h de la nuit, j'étais en rediffusion. Écoute, j'ai 75 ans, et puis je parle à mes enfants de l'histoire, puis ils n'en savent pas, ils ne savent rien. Ils ont été dans les écoles normales.
Ils trouvent ça plate.
Absolument, absolument. Ah, c'est incroyable. Quand j'écoute le Biz, j'en revenais pas, là. Qu'est-ce que j'ai manqué?
Ouais. Histoire 412, là. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. En secondaire 3, secondaire 4, j'ai trouvé, puis ça fait longtemps, là.
Ouais.
C'était comme la même histoire. On m'a raconté encore les maisons longues, puis là, puis je voyais, là, le programme.
Ben oui, ben voilà.
L'histoire, puis là, les historiens chicanent entre eux. Puis
le
là,
moulin banal, qui finit par être banal, oui.
Oui, puis là, tu vois les Anglais et tout, puis moi, je faisais beaucoup de disons que j'ai un peu, aligné ma fille, ma dernière, là, que je trouvais que le programme, c'était tout le temps pris dans le même bloc de ciment plate géré par des Anglais.
Ben oui. Hein?
Là, j'ai dit, regarde, c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. T'essayes de donner un peu de la fierté d'être Québécois aussi. Les Canadiens français sont tout le temps dépeints comme des losers finis.
Tout à fait. Mais quand un gars comme Radisson, par exemple, Pierre-Esprit de Radisson, qui est un coureur des bois extraordinaire, mais lui, on n'en parle pas parce qu'il a travaillé pour les Anglais, pour le commerce de fourrure, parce qu'il s'est fait chier par l'administration française. Ce gars-là raconte dans ses récits de vie que j'ai lus l'été dernier, il part de la baie du Tson, il s'en va au lac Nipissing, au nord de l'Ontario. l'Ontario, en hiver, seul dans la forêt. Il y a un poignard puis une hache. C'est tout ce qu'il a. Il y a pas de pancarte, il y a pas de skidou, il y a pas de poignée chauffante. Et il dit, un moment donné, il y avait un corbeau, j'ai mangé un corbeau. Hier, il y avait rien, j'ai rien mangé. Mais il fallait quand même qu'il marche 14 heures par jour en raquette. Pas de signalisation, rien.
Mon Dieu, c'est Jon Snow and the Wildings.
Mais complètement, mais les Jon Snow pour vrai, là. Alors, quand tu vois ça, t'as pas le droit de te plaindre qu'il fait froid en hiver à Montréal. C'est pas vrai. Moi, ces personnages-là, ils m'aident à mieux vivre maintenant. Ils m'inspirent, ils me rendent fier, ils me rendent fort. Alors, l'histoire, c'est pas pour regarder dans le passé puis rester pris dans le passé. Moi, je le vois comme un rétroviseur. Quand on est dans le trafic, on regarde dans le pare-brise, on regarde en avant. Essaie d'être dans le trafic sans rétroviseur. T'es perdu, puis t'es inquiet, puis tu peux faire des accrochages.
Tellement. Mais tu sais, regarde comment nous-mêmes, puis c'est pas la faute des communautés culturelles, c'est même plus la faute des Anglais, parce qu'à la regarde, tu te dis, c'est leur problème s'ils sont pas bilingues, puis qu'ils s'évertuent à juste vouloir tenir à tout prix à parler anglais tout seul. Mais regarde le solstice, là, la fête du solstice, ouais, là, le spectacle dont tu sais, je suis sûr que tu n'étais même pas au courant du poster.
Ben, je l'ai appris en même temps que tout le monde sur Internet.
T'sais, comment ça se fait qu'on veut tellement, je sais pas ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce qu'on essaie de faire?
C'est parce que sous prétexte qu'il faut qu'on veut inclure tout le monde. Mais les immigrants que je connais, j'en connais beaucoup.
Ils veulent pas ça.
Ils veulent être Québécois. Ils veulent participer à la Saint-Jean. Il n'y en a même pas de problème. C'est des apprentis sorciers dans un laboratoire qui créent des Frankenstein. Il n'y a personne qui a demandé ça. Ouais. La Saint-Jean ou la fête nationale, c'est une fête magnifique, inclusive par défaut. Et tout le monde, tu le vois dans le défilé, là, il y a des gens de toutes sortes de couleurs avec des drapeaux du Québec et il n'y a pas de chicane. Au contraire, les gens disent « Où est-ce qu'on est ici? Parlez-moi de vous, parlez-moi de nous, parlez-moi de l'histoire. » Puis il n'y a personne qui leur en parle.
Mais il y a toi.
Ben oui, moi, puis Serge Bouchard, puis d'autres aussi, Éric Bédard. Puis
y en moi, j'en parle souvent ici, j'en fais parler parce que je trouve que c'est tellement important.
C'est vrai, puis écoute,
à la demande générale, tout le monde t'adore, si on le savait.
Mais merci,
mais on aimerait beaucoup que tu reviennes régulièrement. Alors, je suggère que tu le fasses.
Ça me ferait plaisir. Je veux dire, puis tu le vois, c'est que quand on en parle de ça, les gens sont avides, ils ont faim.
Ça vient nous chercher la fibre québécoise. Ben, et je trouve qu'on a besoin de ça.
Ben, en ce moment, c'est pas un luxe. Mais comme je te dis, moi, ça nous aide. Moi, ça m'aide personnellement à mieux comprendre le territoire dans lequel je suis. Tu sais, quand je te parlais des Grands Lacs et tout ça. Et le climat aussi. La géographie, l'hydrographie, le climat. Et là, tu peux pas te fâcher contre l'hiver. Tu fais avec, puis tu te dis, sais-tu quoi, dans le temps de Champlain, là, avec deux gars à l'île Sainte-Croix, là, ils sont morts parce qu'il y avait rien à bouffer, puis ils mangeaient leurs mocassins. Ouais. Ben, nous autres, on a quand même un peu de bouffe, puis on peut aller se réchauffer si on a froid.
Ouais. Sébastien, merci beaucoup.
Avec plaisir,
mesdames et messieurs, qui étaient venus nous parler d'histoire.
Merci.
Je vous promets, il va revenir. Merci beaucoup.
Bonne Saint-Jean. On est à Saint-Henri le 22 pour la Saint-Jean, à Chersey, dans les Laurentides, le 23, et à Tadoussac, le 27.
On va aller, c'est sûr. Et puis, allez dans une bonne librairie, vous procurer Cadillac, ce roman de Biz, en attendant le prochain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On s'arrête ici. Êtes-vous plus plage ou musée? C'est ce que nous allons débattre tout de suite après.